Bonjour à toutes et à tous. Je vais changer un petit peu de registre parce que je ne suis pas historien. Donc c'est en tant qu'anthropologue de la politique des groupes dits populaires et subalternes en Afrique et ailleurs, dans le monde contemporain, en plus dans une perspective gramscienne, que je me prête, non sans quelques hésitations, à l'exercice de regarder à ce qu'il y a de commun entre les mobilisations populaires contemporaines qui font l'objet de mes recherches et la commune, que je tiens à l'esprit non pas avec les connaissances d'un historien, mais comme image d'une rupture de l'histoire qui se réverbère dans l'espace et dans le temps. Un exercice que j'entends non pas comme un simple jeu d'analogie, dont l'intérêt serait neutralisé par la spécificité historique et des contextes, mais comme mise en perspective d'expériences historiques certes différentes, mais sollicitées par des soucis convergents. Ceux de donner un contenu radical au sens de la démocratie, de rendre le peuple un sujet historique, d'inventer d'autres formes de vivre ensemble et de se gouverner. Pour relier la commune au contemporain, cependant, j'ai besoin de passer d'abord par une étape intermédiaire. Je commencerai en effet par remonter aux années 1930 pour évoquer la réflexion d'Antonio Gramsci sur les cycles de percées et de défaites, surtout des défaites du peuple comme sujet politique dans lequel il inscrivait la commune. Une réflexion qui, à mon sens, permet de dérouler les fils et les connexions entre les différentes étapes et les différents tropismes de l'histoire moderne des mouvements populaires, et ainsi de discuter dans les secondes temps de mon intervention de la signification de tout cela pour les sociétés contemporaines. Dans les années 1930, enfermé dans la prison fasciste et dans un corps malade, Gramsci réfléchissait aux raisons d'une défaite, celle des courants politiques et intellectuels socialistes et communistes italiens et européens dans leur tentative de guider les masses, rentrées sur les devants de l'histoire depuis la Révolution française, vers une initiative politique qui soit autonome, portée consciemment par les classes populaires et subalternes elles-mêmes, comme sujet de leur propre histoire. Gramsci réfléchissait certes à partir de l'histoire italienne, mais il gardait toujours à l'esprit son rapport avec l'histoire française, dont les réverbérations depuis la Révolution poussaient vers la synchronisation des différentes chronologies nationales. Dans les passages des cahiers sur la commune, Gramsci la considère comme une tentative populaire d'élargir et approfondir les sens de la démocratie vers sa version substantielle. Il inscrivait la spécificité de la commune dans la série des soubresauts révolutionnaires du XIXe et du début du XXe siècle, mais aussi à l'intérieur d'un plus long processus d'élaboration politique populaire qui restait, et ça c'est important pour lui, la plupart du temps à l'état latent et embryonnaire. Gramsci voyait dans les insurrections populaires des réouvertures de l'histoire rendues possibles par des situations de crise de l'hégémonie bourgeoise, des moments où s'affaiblissait la dynamique expansive des intérêts et des valeurs bourgeois dans leur effort de se faire des particuliers à universels, et où la classe dirigeante, qui en était l'expression, perdait de ses capacités à la fois culturelles et politiques et de diriger les masses, c'est-à-dire de créer et maintenir derrière et autour d'elles une articulation organique, un bloc historique, entre instances culturelles, économiques et politiques, entre sociétés civiles et sociétés politiques. Cependant, selon Gramsci, les possibilités d'impact des insurrections comme la commune ont été neutralisées par ce qu'il nomme des révolutions passives. Cette notion avait été formulée originairement par Vincenzo Cuoco pour décrire la tentative de traduire la Révolution française à Naples en 1799, tentative échouée à cause de l'absence d'un appui populaire. Gramsci développait et élargissait alors cette notion des révolutions passives pour décrire la manière dont, tout au long du XIXe au début du XXe siècle, les pouvoirs bourgeois ont réagi à ses propres crises hégémoniques en englobant, tout en désamorçant, les demandes des changements venant d'en bas, une neutralisation qui n'est pas pour Gramsci, qui aimait les oxymores, une simple restauration, mais une révolution-restauration, une refermeture des horizons du possible, par la modification moléculaire des rapports de force, absorbant les sollicitations venant du peuple. Au crépuscule des révolutions, tant les risorgimenti italiens que l'après-commune constituent pour Gramsci une réédition mais innovante de ces révolutions passives. Pour ce qui est de la commune en particulier, la répression des communards eut pour Gramsci deux conséquences. Du côté du pouvoir, le retour de la démocratie à sa nature parlementaire et formelle, vidée de son contenu populaire. Du côté des mouvements populaires, un rejet du moment proprement politique et un repli dans un économisme qui, pour Gramsci, sera à la base du syndicalisme et de ce qu'il appelle le sorellisme. C'est un repli de la lutte éthico-politique vers des revendications particulières à caractère purement économico-corporatif. J'emploie ces notions en ce moment. Cela s'explique pour Gramsci avec la perte par Paris, après la Commune, du rôle d'avant-garde dans la traduction unitaire des intérêts multiples du peuple, au-delà de leurs particularités sociales et régionales, et donc avec la fragmentation des groupes sociaux précédemment réunis à un peuple sous la Commune, par leur retour à l'état des classes en soi, économiquement déterminées et donc divisées, petits bourgeois, artisans et ouvriers, urbains et paysans. Pourtant, selon Gramsci, à partir de 1870-71, l'idée d'une révolution partie par les peuples se diffuse au sein des classes populaires et au-delà des frontières, mais elle se répand non pas comme projet politique, mais plutôt comme mythe, c'est-à-dire comme une aspiration populaire certes sollicitée par l'histoire, mais qui perd tout appui et direction politique. Les pouvoirs bourgeois s'est certes vu contraint de tenir compte du peuple face à l'agitation des masses, mais il a fait en les réduisant à une masse historiquement inerte à travers les regards positivistes, comme par exemple celui des sciences sociales naissantes, ou à une masse irrationnelle capable du seul mouvement spontané, comme le voudra la psychologie des foules. Au vu de la faiblesse des démocraties bourgeoises françaises et italiennes, cela aboutira à une autre forme de révolution passive, celle du nationalisme démagogique, ou si l'on veut, de l'option populiste, ce que Gramsci appela, par référence tant à l'action française qu'au fascisme de Mussolini, la démagogie de l'éther, où le peuple, ou mieux la nation, loin de se représenter lui-même, fera l'objet du récit du pouvoir. Pourtant, la modernité comme révolution passive, selon la formule de Peter Thomas, ne s'explique pas que par la capacité du pouvoir bourgeois à réagir à l'émergence des masses. Il existe aussi une limite manifeste propre au mouvement révolutionnaire dans son enracinement populaire, ce que Gramsci définit par la métaphore linguistique comme une incapacité de traduction. Les mouvements actionnistes du Risorgimento italien, par exemple, n'avaient pas su, selon les mots de Gramsci, traduire les Français en italien, c'est-à-dire importer et adapter en Italie la politique jacobine. De la même manière, à la fin de la Première Guerre mondiale, les mouvements révolutionnaires d'Europe occidentale n'avaient pas suivi les bolcheviks, puisque ces derniers, comme l'a dit Gramsci en paraphrasant Lénine, n'avaient pas su traduire dans les langues européennes d'Occident l'expérience révolutionnaire d'Orient. Entre ces deux pôles historiques, ce qui a fait défaut a été une traduction réciproque des différents groupes populaires et donc leur articulation organique dans ce que Gramsci appelle un peuple-nation. Les classes ouvrières urbaines, par exemple, n'ont pas su traduire les intérêts des masses paysannes, comme dans l'expérience turinoise des conseils d'usine, et peut-être avant cela, dans les penchants essentiellement municipaux et urbains de la commune. À cela s'ajoute une dernière et peut-être la plus importante des traductions manquées, la traduction de la spontanéité révolutionnaire des masses, que Gramsci définit comme un subversivisme élémentaire et purement défensif, dans une volonté collective, une initiative autonome des subalternes capables de direction consciente. Cela laissa les champs libres à la diffusion des mouvements qui faisaient de cette spontanéité leur caractère spécifique, comme le millénarisme religieux, et Gramsci fait l'exemple de David de Lazzaretti en Toscane, par exemple, ou qui en faisaient même paradoxalement leur stratégie politique consciente. Gramsci pensait ici à l'anarchisme insurrectionnaliste en Italie. Des anarchistes et socialistes italiens comme Andrea Costa avaient tenté de traduire la Commune dans les insurrections impromptues de Bologne ou de Benevento des années 1870, menées en compagnie de Bakounine. On retenait de la Commune la conviction que le peuple était une masse de séditieux endormis, prêts à se réveiller une fois l'insurrection lancée à travers la propagande par les faits. Cette dérive spontaniste était, selon Gramsci, surtout la faillite des traducteurs, intellectuels et politiciens, qui n'avaient pas su créer un rapport organique, une connexion sentimentale avec les peuples pour en comprendre les conceptions du monde et les aspirations ainsi les guider. Tout cela se résuma dans une incapacité de traduire la pensée en action ou la philosophie en politique, c'est-à-dire de donner corps historique à ce que Gramsci appelait, en pensant à résoudre l'oxymore, la philosophie de la praxis. Alors, en passant par ces cadres gramsciens, j'arrive maintenant à mon second temps, en me demandant si des dynamiques populaires de la Commune s'apparentent avec celles d'aujourd'hui. Si l'on regarde l'effervescence politique des sociétés contemporaines, nous pouvons facilement interpréter cela comme des signes des crises hégémoniques. Des brèches s'ouvriraient dans la saturation d'horizons géographiques, dans ce que Hart et Negri ont appelé empire, et d'horizons temporels, dans la persuasion de la fin de l'histoire. des mobilisations populaires et contestataires, du mouvement altermondialiste jusqu'aux luttes des places du printemps arabe, de la place Taksim, des indignés ou même des nuits debout, ont donc fait parler d'un retour de l'histoire. Dans la théorie critique des mouvements sociaux, nous avons assisté ainsi à une profusion des réflexions sur la possibilité de développer à partir d'un enracinement populaire du politique, ce que l'anthropologue anarchiste David Graeber, militant dans les mouvements d'Occupy Wall Street, a appelé « des autres possibilités ». Qui est d'ailleurs une expression qu'on a entendue tout à l'heure dans les films. Des formes nouvelles de démocratie dites radicales, capables de reformuler par les bas et de manière alternative le sens même de la politique. Avec mon collègue Stefano Boni, nous avons alors essayé d'analyser la circularité des valeurs et projets qui s'y produisent entre cette théorie critique et les mouvements sociaux eux-mêmes autour de ce que nous avons appelé une recherche de l'alter-politique, du politique autrement. Du lecture croisée des travaux ethnographiques concernant ces mouvements, il se dégage une série de valeurs et aspirations communes et qui ont peut-être et parfois un air de famille avec celles exprimées par la commune, ou du moins avec l'image qui de cette expérience se réverbère jusqu'à nos jours. Tout d'abord, on remarque l'insistance sur l'ancrage spatial de ces mouvements dans des lieux définis et délimités, qui se veulent la matérialisation d'un utopisme concret. La place urbaine, par exemple, devient non seulement un lieu de manifestation, mais aussi un espace de construction autonome d'une alternative sociale et politique, un espace liminaire, en dehors, mais construit dans les interstices du monde et donc soustrait à une globalité qui ne se laisserait pas saisir qu'au prix d'une velléité totalitaire. Ces îlots alternatifs, cependant, s'imaginent capables de se multiplier ailleurs, par mouvements mimétiques ou articulations réticulaires, et ils s'imaginent capables de traduire la fracture spatiale qu'ils symbolisent dans une brèche temporelle. Dans ces expériences, définies par Graeber comme des espaces autonomes préfiguratifs, on aurait une micro-auto-institution du social qui anticiperait en la préparant la société à venir de l'après-crise. Dans une sorte de retour à un degré premier du politique, on prône pour des formes qui ne soient jamais institutionnalisées, fondées sur un principe d'horizontalité, des recherches des consensus, qui diffuseraient les pouvoirs à l'ensemble du corps social, en refusant toute représentation, délégation ou autonomisation d'un corps politique. Avec finalement une tendance, je dirais, populiste, qui joue de l'opposition entre un nouveau Versailles globalisé, la caste des politiciens des professions, des technocrates européens et des acteurs du capitalisme financier, et la masse vertueuse, mais jusque-là silencieuse, de la majorité, les fameux 99%. Une masse post-classe, comme le voudrait Ernesto Laclau, qui réarticule sans les réduire les différentes identités et subjectivités sociales. Dans ce sens, à nous les anthropologues, il a semblé significatif que dans ces expériences et réflexions, l'imaginaire anthropologique, surtout les plus primitivistes à la Pierre Clastre, ait été une source d'inspiration. Pour penser des possibles formes alternatives des politiques à l'intérieur, mais déjà au-delà de la modernité, et pour penser une forme de politique ancrée, pour ne pas dire encastrée, dans le social. Dans ce même sens, des figures de la liminarité comme celle du nomade, du pirate, ou encore du barbare et même de l'indigène colonial sont évoquées et traduites dans un concept général de populaire qui permet le retournement du stigmate de l'archaïque et du sauvage, en un mot du primitif, dans l'appréciation d'un esprit de révolte des subalternes. Il ne veut pas relever du cynisme que de reconnaître les faiblesses de telles projections révolutionnaires. Si l'on tient compte de la capacité de reconfiguration des pouvoirs capitalistes, avec par exemple la récupération du populisme par des mouvements nationalistes et xénophobes en Occident, mais aussi dans ce qu'on appelle le Global South, avec les replis autoritaires en Égypte et en Turquie, ou la réaction des pouvoirs brésiliens aux contestations des rues, expliquée par des chercheurs en recourant justement à la notion gramscienne des révolutions passives. Mais le point qui m'intéresse de développer ici est un autre. En 2011, au moment de la propagation planétaire d'insurrection populaire, j'ai participé de l'euphorie intellectuelle et académique pour ce qui s'est passé, en assistant à maintes conférences qui annonçaient l'avènement de l'insurrection qui vient. Pourtant, j'étais travaillé par ma question : pourquoi, dans tant d'endroits qui les mériteraient davantage, on n'en s'insurge pas ? C'est une question qui avait été posée, par exemple, à l'historien E.P. Thompson. Pour mieux comprendre les insurrections, qu'est-ce qu'on fait de ces expériences historiques où les peuples veulent mais ne s'émeut pas, où ce qui est embryonnaire semble déjà avorté? Pour poser ces questions, j'ai essayé d'interroger concrètement la signification du politique et des gens qui se trouvent apparemment aux marges de cette histoire globale de l'insurrection et qu'une certaine posture populiste et parfois exotisant voudrait comme les réceptacles du premier, donc le plus authentique degré du politique. Depuis désormais 15 ans, j'essaye de mettre en perspective certaines lectures des mouvements populaires élaborés en Occident, avec des expériences de mobilisation dans des contextes qui pourraient sembler aux marges de l'histoire globale contemporaine, comme les contrées semi-arides du Sahel ou les quartiers précaires des villes ouest-africaines, dans des contextes des régimes dits démocratiques, mais largement autoritaires. C'est une approche en partie convergente avec une posture postcoloniale, mais qui refuse de celle-ci l'idée d'une impossible traduisibilité des univers culturels et des expériences historiques de l'Occident et des autres, pour insister plutôt sur la conflictualité, ici comme ailleurs, des temporalités, des récits, des subjectivités, d'expériences politiques plurielles, au-delà des grands récits de l'incommensurabilité des modernités et traditions. Avec ma collègue Armelle Choplin, j'analyse par exemple la politique populaire dans des bidonvilles et des quartiers précaires de Mauritanie ou du Golfe de Guinée, où se trouvent relégués les groupes les plus pauvres et vulnérables, sur lesquels pèse d'ailleurs l'héritage de l'esclavage, de la discrimination raciale et du mépris social. Ces quartiers, repoussés de plus en plus loin des centres par des politiques internationales néolibérales d'investissements fonciers et des rêves urbanistiques luxueux, deviennent l'espace des confrontations de deux politiques. D'une part, une gouvernementalité technocratique qui espère quadriller et mettre aux normes civilisées des lieux considérés comme anarchiques à cause des comportements non urbains de ses habitants, qui sont en réalité leurs seules armes de survie, et de l'autre, des mobilisations citadines et citoyennes pour la demande des services et la revendication des droits d'accès et des propriétés, ce qui se configure, pour utiliser l'expression d'Henri Lefebvre, comme une revendication d'un droit à la ville et d'une justice socio-spatiale. Cependant, comme le montrent certains mouvements politiques qui essayent d'émerger en dépit de leur criminalisation dans ces contextes, la question, celle de la cité future, pour utiliser un autre concept gramscien, est de savoir si ces types de mobilisations sauront dépasser leur stade purement revendicatif et s'inscrire ou se traduire dans un projet politique, ce qui pour l'instant est plutôt récupéré par des mouvements de type religieux, qui donnent forme et contenu aux imaginaires du rachat et des refondations sociales. Et si de tels mouvements politiques sauront opérer cette sorte de traduction en articulant des groupes sociaux qui partagent des situations de marginalité similaires, mais dont les différences ethniques, sociales, professionnelles sont constamment alimentées par des pouvoirs dits démocratiques, des pouvoirs qui, avec la collaboration active ou passive de la gouvernance internationale, ont tout l'intérêt à les diviser et qui, pour répondre à leur déficit de légitimité au sein du peuple, n'hésitent pas à absorber de manière moléculaire, comme le disait Gramsci, quelques représentants du peuple pour opérer leur propre révolution passive. J'arrive ainsi à la conclusion de ces voyages, certes très superficiels, de la commune aux marges africaines de la globalisation, en passant par Gramsci et les années 1930 et les mouvements sociaux occidentaux les plus récents. Ces parcours sembleraient nous forcer à un certain pessimisme de la raison. Cependant, je pense que notre réflexion collective à partir de la commune et nos tentatives de traduction d'expériences différentes peuvent contribuer à y identifier une affinité au-delà de leur discontinuité tant historique que géographique. Une trame de fond peut être latente, mais un souci commun et constant, qui est le souci démocratique au sens fondamental et qui mérite peut-être aujourd'hui plus que jamais d'être renouvelé en les regardant aussi depuis l'ailleurs et autrement, mais pour tenter d'y trouver un sens commun. De cette réflexion, j'en tire donc deux conclusions préliminaires. Si je regarde aux tentatives contemporaines de mobilisation populaire au prisme de la commune, je pense que cette dernière nous invite à poser la question du projet politique, c'est-à-dire de son enracinement populaire, je dirais presque de son incarnation. Une question qui est aussi celle, finalement, de la traduction réciproque, pour revenir encore à Gramsci, de la théorie à la praxis, et donc aussi de l'imaginaire et de l'histoire. Un exercice qui, comme dans la Città Futura gramscienne, doit éviter de se réduire à une simple affaire d'idéologie ou de projection utopiste et populiste sur l'autre, de tous nos espoirs de révolte, ce qui nous mettrait dans une position d'attente à partir de laquelle on relance à l'infini l'annonce de la révolution pour demain. Si l'on pense aux mobilisations contemporaines, s'agit-il vraiment des mobilisations sociales et politiques populaires ou d'une surdétermination par la rhétorique de la révolte qui entraîne une confusion entre les discours intellectuels antagonistes et certaines des valeurs revendiquées concrètement par les groupes mobilisés avec leurs intérêts et leurs histoires spécifiques. Ma deuxième conclusion est la suivante. Les expériences politiques et populaires différentes s'offrent à notre regard comme un rappel réitéré de la potentialité d'un autre devenir historique et d'une autre forme de constitution du politique. Or, il me semble que l'imagination anthropologique et l'imagination historiographique de la commune ont beaucoup en commun. Dans la mesure où toutes les deux nous attestent de cette multiplicité des possibles à l'intérieur, mais aussi du récit de la modernité, l'une dans les temps synchroniques des différents lieux du monde contemporain, l'autre dans l'espace diachronique des expériences du passé. La question est de savoir ce que l'on fait de cette imagination anthropologique ou historiographique. Le risque serait celui, déjà signalé par Gramsci dans sa critique de l'utopisme, de se replier dans des rêveries d'évasion, ou sinon, comme discuté par Enzo Traverso dans son dernier travail, de se contenter d'une nostalgie pour les rêveries passées. Je vous remercie.